Les Voix de l'Alma, édition de juin 2012, avec autour de la table aujourd'hui Aurélien Vinès, bonjour.
Bonjour.
Maurice Beau, bonjour.
Toujours sur place.
Philippe Bernadou, comment ça va?
Ça va très bien, merci.
Et Jacques Griffaut, bonjour.
Bonjour.
Alors, l'auteur du mois va nous être présenté illico presto par Philippe Bernadou. Il s'agit d'Erri De Luca.
Erri De Luca, oui, c'est un écrivain italien contemporain, il est né en 1950, auteur de romans, de poèmes et d'essais. Alors, en quatre mots pour agencer son portrait, Naples, Révolution, Montagne, Bible, c'est assez disparate. Naples, c'est sa ville natale. Elle est présente dans presque tous ses romans et particulièrement le quartier de son enfance, Monte Didio, le Mont de Dieu, qui donne son titre au roman le plus connu d'Erri De Luca en France, pour lequel il a d'ailleurs reçu le prix Femina étranger en 2002. Son éducation rigide dans une famille déclassée, ce qu'on appellerait aujourd'hui des nouveaux pauvres, est éclairée par la découverte de la solidarité, de la bienveillance du peuple de ce quartier, qui est personnifié dans le roman par le cordonnier juif Raffaniello, qui est une sorte de substitut paternel pour le jeune homme. La Révolution. Erri De Luca la vit dans les années 70 en idée et en acte. Il est un des dirigeants de Lotta Continua, mouvement d'extrême gauche qui, s'il ne pratique pas le terrorisme comme les Brigades Rouges, ne condamne pas la lutte armée révolutionnaire. Ce qui le met, on le comprend, en délicatesse avec le gouvernement italien quand en 82 sont votées les lois d'exception, les lois d'urgence. Il s'exile alors quelque temps en France où il est ouvrier sur des chantiers. À la Défense en particulier, à Paris. Il a en effet choisi ce qu'on appelait alors l'établi, hein, les étudiants qui passaient à l'établi, la condition ouvrière, d'abord chez Fiat, puis dans des entreprises de bâtiments. Il est resté ouvrier 18 ans et n'a jamais renié ses engagements d'alors. La montagne ensuite, qu'il pratique en alpiniste de haut niveau, c'est le cas de le dire, dans les Alpes et les Dolomites à côté de chez lui, mais jusque dans l'Himalaya. S'il y a une raison à chercher à cette passion, c'est sûrement de rajouter à la discipline politique et intellectuelle celle du corps. D'ailleurs, il n'y a qu'à le voir, le bonhomme est sec comme un piolet. La montagne est présente dans « Sur la trace de Nives », qui est le récit d'une expédition avec l'alpiniste italienne Nives Morai, et surtout dans son magnifique roman, avant-dernier roman, « Le poids du papillon », qui raconte l'affrontement entre un vieux chasseur et un vieux chamois. Enfin, il y a la Bible, qu'Erri De Luca découvre par hasard et qui va exercer sur lui une telle fascination que tous les jours il se lèvera à 5 heures pour en lire un passage avant d'aller travailler. Le lire et le traduire, parce que tant qu'à faire, il apprend l'hébreu pour en retrouver la langue originelle. Il a publié plusieurs livres de commentaires de la Bible, et certainement elle influence aussi son écriture, qui est à la fois poétique et limpide, on pourrait dire d'une simplicité biblique. L'occasion de parler d'Erri De Luca aujourd'hui nous est donnée par la parution simultanée de deux livres chez Gallimard, un recueil de poèmes, Aller simple, très beau bien entendu, et un roman qui s'appelle Et il dit, où se rejoignent encore une fois la Bible et la montagne, puisqu'on nous parle d'emblée d'un alpiniste qui rejoint son camp de base épuisé, Agar, et en fait il s'agit de Moïse qui descend du Sinaï où il vient de recevoir les tables de la loi, le décalogue. Pour ce que les références à la religion effrayent ou pourraient effrayer, je précise pour conclure qu'Erri De Luca est et demeure fondamentalement incroyant. Je ne suis pas athée, dit-il, je suis un homme qui ne croit pas. Ce qui donne certainement à ses livres encore plus de force et de portée. Erri De Luca chez Gallimard.
Merci Philippe Bernadou. On entend derrière vous quelques coups de marteau. C'est simplement parce qu'il y a des chantiers autour des studios de CFM Radio. Donc on va essayer d'y prêter peu d'attention durant cette émission. Le premier coup de cœur, c'est à vous qu'on le doit, Jacques Griffaut, et il s'agit de Carou.
Oui, Carou, c'est un livre qui séduit dès sa couverture. Sa couverture est en carton, naturel, sable, comme l'on dit, superbe papier, des nombreux effets de relief. Le tout est commenté en fin de volume avec une ironie qui pourrait elle seule introduire au roman. C'est l'éditeur indique, l'ouvrage ne mesure que 140 mm de largeur sur 195 mm de hauteur. Pourtant la chute qu'il raconte est vertigineuse. L'éditeur ajoute que Carou signifie le pays de la soif. En Koikoi, qui est une langue qui jusqu'à présent m'était absolument inconnue. 607 pages d'un récit qu'une fois commencé on ne peut lâcher, c'est un roman époustouflant à lire absolument. Rien. Absolument rien. Non seulement il n'est pas saoul, mais il n'est même pas un peu éméché. Alors il est vraiment désespéré parce qu'il a absorbé une quantité phénoménale de boissons alcoolisées sur un estomac vide. Du vin rouge, de la vodka, du vin blanc, du bourbon, du scotch, du cognac, de la grappa, de la bière, etc. Et son problème avec la boisson, ça a commencé 3 mois plus tôt. Il a une maladie étonnante, l'incapacité à l'ébriété. Quelle que soit la quantité d'alcool ingurgité, il ne peut plus être ivre. Et cette maladie a un étrange effet secondaire sur lui. Il se retrouve à boire plus que jamais pour espérer qu'un jour, au moment où il s'y attendra le moins, il deviendra de nouveau ivre, comme au beau vieux temps, et qu'ainsi il pourra redevenir lui-même. Alors dans les soirées, tout de même, il boit énormément, parce que, comme à son habitude, il feint l'ébriété, il trébuche, il tangue, il titube, etc. Alors il a d'autres maladies, il y a la fuite à tout prix devant toute forme d'intimité. Par exemple avec son fils adoptif, Billy, qui est étudiant en première année à Harvard, qui mesure 1m95 et qui n'a pas fini de grandir, eh bien là, il va toujours fuir un tout petit peu à chaque fois qu'il aura la possibilité d'une rencontre avec lui. S'il est officiellement séparé de sa femme, Diana, depuis plus de 2 ans, il continue de la voir régulièrement au cours de repas qui sont des morceaux à chaque fois d'anthologie pour discuter des termes de leur divorce. Ça fait donc plus de 2 ans qu'ils en discutent. Il s'appelle Saul Carew. C'est un des rouages modestes mais essentiels de l'industrie cinématographique. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il est script docteur. Ça veut dire qu'il reprend les scénarios écrits par les autres. Il les coupe, il les polie, il les réécrit. Il va garder l'œil sur l'histoire. Il va éliminer tout ce qui semble superflu. Et à Los Angeles, on l'appellera le nègre d'Hollywood. Mais comme il vit à New York, on l'appelle Doc. Il a essayé d'écrire il y a fort longtemps, mais ça n'a jamais marché. Il a un doctorat en littérature comparée. Il est très bien payé pour ce qu'il fait. C'est un homme riche. Un jour, on est à la fin des années 80. Cromwell, qui est un producteur de cinéma, va lui remettre la cassette du dernier film du très grand, célèbre metteur en scène, Arthur Hausmann. C'est vraiment le dernier géant du cinéma. C'est non seulement un génie, mais c'est un génie essentiel, comme il dit. Le film, va lui dire Cromwell, est chaotique et son montage final n'est même pas un assemblage respectable. Il lui dit « Voilà, vas-y, jette un œil, c'est peut-être foutu, peut-être que même toi tu vas pouvoir rien y faire, mais on va tout de même essayer. » Saul, donc Saul Carew, s'était bien promis de ne plus jamais travailler pour Cromwell. Cromwell, c'est un type qui est cultivé, qui est bien élevé, qui est civilisé, mais qui est fondamentalement mauvais. Et Saul ne peut plus le supporter. Il visionne la cassette, le film est parfait. Absolument parfait, c'est un chef-d'œuvre. Il n'y a absolument rien à retoucher. Cependant, il constate que dans le film, il y a une actrice qui lui semble être une personne avec laquelle, bien qu'il ne l'ait jamais rencontrée, il a eu une communication téléphonique qui a changé sa vie quelques années auparavant. Et c'est ce qui va l'inciter à accepter de démolir ce chef-d'œuvre et de partir à Los Angeles. Je vous en dis pas beaucoup plus. On est souvent en empathie avec Carew, qui est un homme qui va tenter de se racheter alors que plus dure sera la chute. Il peut être exaspérant, insupportable, voire odieux, mais c'est un type étonnant. Le livre, lui, est cynique, brillant, virtuose, inventif, il y a de l'humour corrosif, c'est féroce, c'est captivant, c'est très bien construit, c'est surtout totalement hors norme. Il y a des scènes absolument formidables, je vous ai déjà mentionné celle des repas de Carew avec Diana, avec Cromwell aussi, au cours desquels tous se donnent en représentation, devant les restaurants, devant tous les gens qui sont attablés là. Celle où il passe un examen médical aussi est assez étonnante, celle où il rend visite à sa vieille maman, sans oublier les 20 pages finales qui sont absolument hallucinées, dans lesquelles Carew revisite l'Odyssée, rien que ça. Voilà, c'est un livre que je vous recommande vivement.
Merci Jacques Griffaut, ça s'appelle donc Carew de Steve Tessich.
C'est ça? Bravo, très bien.
Oui, parfait. La suite des voix de l'Alma, toujours au milieu de ce chantier, on entend des coups de marteau. J'espère qu'ils ne vont pas nous apporter les marteaux piqueurs dans la suite, puisque ce serait vraiment très mal pour la BD que nous présente Maurice Beau, qui s'appelle La Douce.
La Douce, un grand chantier aussi, oui. Donc La Douce chez Casterman, c'est une BD, un roman graphique de François Schutten. Schutten, j'aurais tendance à dire, ou Schutten, ou Schutten, voilà, selon, je pense, l'appellation belge contrôlée. Donc François Schutten, qui est ici à la plume et au crayon, c'est le dessinateur complice de Peters et de grandes séries oniriques de BD. Comme schéma de trame dramatique, on retrouve ici, dans La Douce, le voyage initiatique que Schutten a souvent abordé dans ses précédents albums, fruit de sa collaboration donc avec Peters. Un personnage fragile, souvent malade, souffreteux, subit l'immutation de son monde et cherche des réponses, un sens à ces mutations. Dans La Douce, Léon Van Bell est un machiniste mécanicien usé par une vie passée dans sa locomotive. Donc, dures conditions de travail près du foyer de sa loco. Une locomotive type 12004, c'est un vrai modèle créé et exploité par les chemins de fer belges en 1938. Une merveille de design futuriste. C'est vraiment très très beau comme engin. Et Léon Van Bell vit une relation fusionnelle avec sa machine, comme le vivaient souvent d'ailleurs les machinaux de l'époque. Or, le monde de Van Bell vit de grands changements. Les terres subissent des inondations permanentes inexpliquées qui rendent les déplacements terrestres de plus en plus difficiles. On a développé des réseaux de téléphériques électrifiés pour remplacer le rail et tous les collègues de Van Bell accepte peu à peu de se reconvertir dans ce système. Donc là, vous voyez, il y a toujours des mutations, des oppositions, mais on parle d'eau, de terre, de feu, d'air. C'est donc des thèmes très, très élémentaires. Et Léon Van Bell va tenter de protéger sa locomotive envers et contre tous, mais il va en être séparé à un moment donné. Aussi, il va entamer sa quête pour retrouver sa douce, comme il l'appelle, donc sa chère locomotive. Et dans son périple, il sera accompagné d'ailleurs d'une étrange sauvageonne, mutique. C'est vraiment troublant d'ailleurs la relation qui s'établit entre le vieil homme et cette jeune fille. Bon, on entre doucement dans le récit avec des situations relativement simples, puis, chemin faisant, l'univers onirique dessiné par Schutten devient déroutant, oppressant. Un peu, le lecteur se retrouve un petit peu comme un promeneur qui pénètre dans un sous-bois, puis peu à peu s'enfonce et se perd dans une véritable jungle. Voilà. Le dessin au trait de Schutten est magnifique, avec des planches où l'étude du rendu de lumière est époustouflant, un noir et blanc lumineux. Voilà. De plus, Schutten vous propose une expérience technologique incroyable de voyager en réalité augmentée. C'est bluffant. C'est un procédé qu'il a mis au point avec Dassault Systèmes. Alors, vous allez vous brancher sur un site qui vous est donné sur le net. Vous branchez votre webcam et vous ouvrez votre album, cet album-là, aux pages de garde. Et vous présentez l'illustration du dépôt ferroviaire face à la webcam pour commencer l'expérience et vous plongez carrément dans un univers incroyable en 3D. Bon, moi, personnellement, je suis pas très, très friand de tout ce qui est cinéma 3D, etc. Mais là, il y a quelque chose de vraiment étonnant. Bon, c'est fort amusant. Mais par contre, comment ça marche, ça, je vous l'expliquerai pas. Personnellement, je reste sur cette histoire de toute manière. L'histoire est rien que l'histoire et aussi beaucoup le trait de Schutten qui signe ici un véritable chef-d'œuvre. Donc, La Douce, chez Casterman.
Merci Maurice Beau. Aurélien Vinès, une autre BD, un manga pour vous.
Billy Bat de Naoki Urasawa chez Pika. Je précise que les prononciations non plus ne sont pas homologuées. Alors, Urasawa, c'est un des mangaka qui a véritablement explosé en France il y a 10-12 ans. C'était avec Monster, puis dans la foulée 20th Century Boy. C'était pour la première fois un petit peu pour le public français des mangas adultes avec des histoires assez complexes, etc., qui s'éloignaient un peu des thèmes plus classiques. Alors Billy Bat, qu'est-ce que ça raconte? C'est l'histoire d'un dessinateur de bande dessinée, Kevin Yamagata, qui est installé aux États-Unis après la Seconde Guerre mondiale. Donc il y a un petit peu le spectre déjà du macartisme, de la chasse aux sorcières, tout ça qui plane. Et chacun se soupçonne un petit peu d'être communiste. Lui-même, dans la BD qu'il dessine, qui s'appelle Billy Bat, donc qui a un succès énorme aux États-Unis. Il est pas comment dire, il est un petit peu obligé de faire un peu de propagande étatique et de lutter lui aussi contre le communisme. Alors ce qui se passe un jour, c'est que le FBI débarque dans son appartement et sous prétexte de le réquisitionner pour espionner le voisin d'en face qui serait un rouge. Et ce faisant, les agents du FBI, en tournant dans l'appartement, tombent sur les planches qu'il est en train de dessiner et lui disent: ce personnage de chauve-souris que vous avez inventé, en fait c'est un plagiat, il n'est pas de vous, vous l'avez piqué à un autre auteur, moi j'étais en garnison au Japon pendant la guerre et j'ai déjà vu cette chauve-souris là-bas. Donc le dessinateur est complètement abasourdi et il décide de voyager au Japon pour enquêter sur son propre personnage finalement. Donc le voilà parti au Japon sur les traces de sa chauve-souris. Il va se retrouver mêlé un petit peu à un complot international qui est à la fois politique, religieux et qui court sur plusieurs centaines d'années à travers l'histoire, où cette chauve-souris joue un rôle absolument majeur puisqu'elle réapparaît à certains moments cruciaux de l'histoire de l'humanité. Voilà, donc comme toujours chez Urasawa, il y a cette même thématique de un petit peu de la lutte entre le bien et le mal, mais qui on plonge pas dans le manichéisme absolu parce qu'il y a quand même il prend soin de creuser énormément les profils psychologiques de ses personnages et puis de découper surtout son histoire dans une trame très très complexe avec d'incessants allers-retours dans le temps et donc ça fait un manga au final qui est très réussi, très adulte, très très mature. C'est pour un public adolescent et adulte, donc. On en est à 3 numéros, le 4e sort en septembre. Voilà, Billy Bat, Naoki Urasawa aux éditions Pika.
Merci Aurélien Ginès de la librairie Deloche. Jacques Griffaut, écrivain voyageur, c'est le beau livre que vous nous présentez.
Oui, c'est un beau bouquin que je vous présente, qui est écrit par Laurent Maréchaux, qui est publié chez Artaud. L'idée, c'est simplement d'abord, pour tous les gens qui partent, ou ceux qui ne partent pas, de vous proposer des écrivains voyageurs. C'est sous-titré, c'est « Vagabonds qui disent le monde ». Alors tiens, entre parenthèses, c'est une formidable idée de cadeau pour la fête des pères. Vous allez avoir ici un portrait de 19 auteurs, qui est présenté par Laurent Maréchaux. Alors Laurent Maréchaux, on en a parlé un petit peu ici déjà, parce que je crois que j'avais présenté Bijoux de famille, qui était un formidable roman de lui, publié au Dilettante, j'avais dû présenter ça il y a 2 ou 3 ans. Et Laurent Maréchaux, il a passé sa jeunesse à lire, à rêver, et puis il s'est lancé dans l'exploitation forestière et la vie au grand air sur les traces de Jack London, avant de partir en Afghanistan, puis il a passé le Cap Horn à la voile, il s'est installé en Patagonie, à Bali, au Kenya, etc. Alors quels sont les 19 auteurs qui nous présentent? Ben d'abord, 10 voyageurs qui devinrent écrivains, comme Pierre Loti, Robert Louis Stevenson, Joseph Conrad, Alexandra David-Nel, Victor Segalen, etc., etc. Et puis 9 autres qui se firent voyageurs. Les premiers, c'était des voyageurs qui devinrent écrivains. Là, c'est des écrivains qui se firent voyageurs. Et dans la liste, il y a Rudyard Kipling, Jack London, Pierre Macorlan, Blaise Cendrars, Joseph Kessel, Simenon aussi, c'est assez étonnant qu'on le trouve là, Romain Gary, Jacques Kerouac, Brice Chatwin. À chacun, Laurent Maréchaux consacre 8 à 10 pages, composées d'un texte qui est très enlevé, très vif, et de très belles photos noir et blanc et sépia, qui sont très bien choisies. Donc les uns voyagent puis écrivent, les autres prennent la route pour nourrir leur imagination. Tous ont le même but, nous emmener au bout du monde, en empruntant leurs traces, ou plus simplement, comme le conseil Pierre Macorlan, et je m'ajoute à ce conseil, en lisant bien assis dans un bon fauteuil leurs récits et romans pittoresques. Alors c'est un livre superbe qui n'est pas seulement à feuilleter pour le plaisir, mais qui constitue aussi une vive incitation à lire ou à relire ces auteurs de littérature d'aventure. 2 ou 3 petites citations. Pierre Lazareff, vous savez peut-être, qui était le grand patron de François, un grand homme de presse, il reproche à Cendrars de n'avoir jamais pris le Transsibérien. Et Cendrars lui répond de façon cinglante: « Qu'est-ce que cela peut bien vous foutre si je vous l'ai fait prendre ?» Et Robert Louis Stevenson dit « Je ne voyage pas pour aller quelque part, mais pour voyager, je voyage pour le plaisir du voyage. » Et Kerouac, dont on vient de rééditer à l'occasion du film Sur la route, et surtout le Sur la route en folio, le rouleau original, avec une des quatre fabuleuses préfaces que je vous recommande vivement. Car Jacques Kerouac disait « Écrire est mon boulot, alors il faut bien que je bouge ». Allez, c'est un livre pour tous, à offrir et à s'offrir.
Merci.
Écrivain voyageur, c'est vagabond qui disent le monde.
Merci Jacques Griffaud de ne pas vous être laissé distraire par le bruit du marteau-piqueur du chantier d'à côté. Ça se passe bien. Eh bien, la suite donc de cette édition de juin des Voix de l'Alma, c'est avec la lecture que va nous faire maintenant Philippe Bernadou, une lecture de Camille de Toledo.
Et voici ce que Camille de Toledo dit lui-même de ce texte. Ce texte, L'inquiétude d'être au monde, écrit pour la Maison du Banquet des Générations, a été lu le 8 août 2011 à La Grasse. La décision de le publier est indissociable, en moi, d'un espoir de voir les mots agir sur et dévier l'esprit contemporain de l'Europe. Je pense au père qui attend son enfant, le soir, et prie, en silence. Il ne croit pas en Dieu, le père, mais il prie quand même parce qu'il ne sait plus vers qui se tourner. Il attend son enfant et l'inquiétude trace en lui des lignes vertigineuses, des phrases et des phrases qui racontent des histoires formidables d'enlèvements, d'accidents, de fugues et de disparitions. Des milliers d'histoires dont le père, s'il était écrivain, pourrait faire un recueil. Il appellerait ce recueil « Les mille et une nuits ». Ou plus justement, « Les mille et une nuits où je t'ai attendu ». Et il faut voir à cet instant le visage du père, le visage inquiet du père, les cernes sous ses yeux, le visage qui attend et prie ou espère, ou simplement le père qui se replie autour de ses genoux en priant encore pour que l'enfant soit là, devant lui, sain et sauf. Voilà ce que je nomme inquiétude, veille et terreur qui ne cesse de grandir en nous, quiétude que nous espérons mais qui nous quitte au fil de l'âge, impossible apaisement dont nous portons le souvenir. C'était il y a longtemps, il y a si longtemps, pense-t-on, dans un monde d'hier, comme le titre de Zweig, le monde d'hier. Lorsque l'homme était au centre, la ville autour de lui, et plus loin, maltraitée, paisible, la nature, le cycle régulier des saisons. Cette quiétude passée est à peine un souvenir, un âge rêvé qui ne fut sans doute jamais, mais comment le dire autrement? Devrait-on dire, ce fut là notre enfance? Ou plus loin encore, le souvenir d'un âge de la pensée qui se perpétue en nous, âge de l'équilibre, de la raison, souvenir de ce que l'esprit de l'humanisme portait comme conscience et espoir. C'était cela, un monde bien ordonné. C'est un texte, moi, qui m'a absolument bouleversé. C'est 40 pages de ce ton-là. Ça s'appelle « L'inquiétude d'être au monde », Camille de Toledo, aux éditions Verdier.
Merci Philippe Bernadou, un ouvrage qu'on peut retrouver évidemment à la librairie de Loche, rue de la République. Alors, ça y est, c'est l'heure de vos actualités. L'actualité du mois de juin des libraires montalbanais commence le 6 à La Femme Renard. Jacques Griffaud, vous vous en faites l'écho.
Oui, le 6 juin à La Femme Renard, dans le cadre de Place aux Nouvelles, Dominique Paravel, Dominique, c'est une écrivaine ou une auteure, vient présenter Nouvelles Vénitiennes, un recueil de nouvelles donc, dont le fil rouge est donc Venise. C'est publié chez Serge Safran. Serge Safran, c'est un nouvel éditeur. Il a contribué à lancer la maison d'édition Zulma il y a quelques années. Donc ce sera mercredi 6 juin à 19h à La Femme Renard.
Merci Jacques. Une exposition se poursuit tout le mois de juin à la librairie Beaulivre, Maurice.
Oui, portrait d'auteur en hauteur. En effet, j'ai invité Jean-Claude Fournier à faire tourner les têtes puisqu'il présente sous les voûtes de ma librairie des portraits grand format, des portraits d'auteurs, des poètes comme par exemple Ferré, Antonin Artaud, des penseurs comme Nietzsche ou Suran, Yankelevitch, Deleuze. Et j'attends, et c'est ça un petit peu la particularité, j'attends la visite de Camus et de Sartre, puisque c'est une exposition tournante qui vous invite à venir, à revenir et surtout à lever les têtes vers le talent de Jean-Claude Fournier.
Voilà, ça se passe à la librairie Beaulivre, Place Nationale. À Montauban, Philippe Bernadou, une première rencontre a lieu à la librairie de Loche le 9.
Oui, les rencontres de juin commencent effectivement le 9 en matinale. C'est un samedi à 10h30. Nous recevons Pascal Assema, qui va dédicacer son livre « Ces animaux qui ont marqué la France ». Le titre dit tout, le papillon rouge éditeur, ce sont donc le rôle des animaux dans l'histoire de France. Le mercredi 20 juin, ça c'est à 17h30 à la Cavalière, donc au sous-sol de la librairie, les lectures mensuelles de la Compagnie des écrivains de Tarn-et-Garonne, c'est Roger Beaumont qui présente Aristide Bruant. Et ensuite, le samedi 23, toujours en matinale à 10h30, Bernard Clément dédicace La Demoiselle de Saint-Malo chez Ouest France, un roman qui se passe pendant la Révolution.
Et on revient vers vous, Jacques Griffaut, pour le 26 juin.
Oui, le 26 juin à la librairie La Femme Renard, toujours dans le cadre de Place aux Nouvelles, c'est Julien Campredon, qui est un Toulousain, qui vit dans le sud-ouest, qui présente son recueil de nouvelles « L'attaque des dauphins tueurs » qu'Aurélien avait présenté il y a quelques semaines. C'est un livre qui est publié chez Monsieur Toussaint L'Ouverture, qui est un éditeur toulousain aussi. Et ce sera donc à 19h à la librairie La Femme Renard. Juste un petit mot, je vous rappelle que Place aux Nouvelles, il y a un festival littéraire qui se déroulera le dimanche 9 septembre à Lauzerte en présence d'une trentaine d'écrivains, dont les 5 qui auront été préalablement invités et qui auront été invités à présenter leur recueil à La Femme Renard et ainsi qu'à la médiathèque de Lauzerte la veille ou le lendemain selon les jours. Vous trouverez tout ça sur un site, un blog qui est dédié maintenant à Place aux Nouvelles. Il suffit de taper Place aux Nouvelles, c'est www.placeauxnouvelles.fr. Vous aurez la bobine des auteurs qui sont là, leur biographie, quelques textes qu'ils nous ont remis, etc.
Merci Jacques Griffaut. On arrive au terme de cette émission. Je vous propose de faire un petit tour de table pour nous rappeler le titre des ouvrages que vous nous avez présentés. Et on commence avec vous, Philippe Bernadou.
L'auteur du mois, c'était Thierry de Luca, à l'occasion de la parution d'un livre de poèmes « Aller simple » et d'un roman « Et il dit » tous les deux chez Gallimard. La lecture était extraite de « L'inquiétude d'être au monde » de Camille de Toledo chez Verdier.
Aurélien Vinès.
Billy Bat de Naoki Urasawa chez Pika.
Maurice Beau.
Alors, La Douce de François Schruten, une BD, un roman graphique aux éditions Casterman, et de Didier Danenx, le roman Le Banquet des Affamés chez Gallimard.
Jacques Griffaut.
Carou de Steve Tezich, qui est publié chez Monsieur Toussaint L'Ouverture, et Écrivain voyageur, sous-titré Ces vagabonds qui disent le monde, de Laurent Maréchaux chez Artaud.
Merci messieurs, cette édition des Voix de l'Alma pour le mois de juin s'achève. Elle était réalisée en compagnie d'Aurélien Vinès et Philippe Bernadou de la librairie de Loche, de Maurice Beau de la librairie Beau Livre et de Jacques Griffaut représentant ici La Femme Renard et le festival Place aux Nouvelles qui aura lieu en septembre. À la semaine prochaine, mais non, au mois prochain.